politique par le père Philippe, à Rimaud, le 20 juin 91.
Je ne sais pas ce qu'il y a dans l'air, mais il y a quelques personnes que je connais bien qui sont dans des situations très, très périlleuses au point de vue santé. Magdalite, que j'étais voir l'autre jour, lundi, en rentrant de Bretagne et de Normandie, qui vraiment depuis 3 ans et maintenant ça devient comme si quelqu'un qui souffre et qui s'est porté avec force, ils me disent, j'en peux plus, j'en peux plus. C'est trop, c'est trop. Elle souffre de la tête aux pieds. Il ne sait pas comment ça va être. Et les médecins ne savent rien. Le dernier qu'il y a eu, c'était quelqu'un du Lion de Juda. Il a dit, ne voyez plus aucun médecin. Ils ne peuvent plus rien pour vous. Ne prenez aucun médicament. Ils ne peuvent plus rien pour vous. Quand quelqu'un souffre beaucoup, pas drôle. Elle a dit, je crois qu'ils ont raison. Ils ont raison. C'est quelque chose qui dépasse le point de vue humain. Ce qui est vrai. Et quand on la connaît, moi je la connais de vieille date, hein, je sais combien c'est quelqu'un qui porte profondément. Une autre personne, la personne qui nous a donné le très beau tableau de l'oratoire, une maladie dont on ne peut rien. On a l'impression qu'il y a, et sans parler hein, de ce qu'on rapportait à la lecture du réfectoire, le sida, quand on sait combien ils souffrent, quand ils sont pris dans ça, et le désespoir les guette avec. Alors, pourriez-vous reprendre votre argumentation qui monte l'illégitimité des rapports homosexuels ainsi que l'illégitimité de l'utilisation de l'art dans le... Troisièmement, pourriez-vous... Je veux bien reprendre, je veux bien... Je comprends, c'est très important, c'est bien, et c'est très difficile. Faut pas moraliser. On est en face de l'amour. Alors, quand on moralise, on éreinte les gens. Parce que la morale présuppose l'amour. Alors au nom de la morale, on condamne l'amour. Vous voyez ? Et c'est ça qui exaspère les jeunes. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut un regard philosophique. Qui lui regarde l'homme vivant et qui comprend ce que c'est que l'amour. Ce qu'on aurait besoin d'aujourd'hui, c'est une grande philosophie d'amour. Ça, je crois. Et de plus en plus. Il montrerait comment une métaphysique de l'être peut seule parler d'une philosophie d'amour. Ou d'une métaphysique de l'amour. C'est ça qu'il faut regarder. Vous voyez ? Pour ne pas moraliser, on est tous d'accord que l'Église condamne l'homosexualité. On est tous d'accord que l'Église condamne. C'est le rôle de l'Église de condamner. C'est pas drôle, mais c'est comme ça. C'est le rôle de ceux qui sont chargés, point de vue. Et le rôle des philosophes et des théologiens, c'est de comprendre pourquoi il y a ça. Vous voyez ? Donc, d'essayer de comprendre par rapport à l'amour que l'amour risque toujours d'avoir les déviations. Pour moi, c'est ça le point de vue. Oui. Alors, si on faisait une grande philosophie de l'amour, il faudrait la faire ici. Après tout, ça nous intéresse. Hein. En première ligne, et ça aiderait. Je connaissais ce jeune dominicain, vous savez, il s'est beaucoup occupé à Paris de tous ces milieux. Il m'avait même demandé. fois le soir. J'ai répondu, parce qu'il n'y a pas de... C'était pas... J'ai vu combien il essayait de les aider. Au bout d'un certain temps qu'il essayait de les aider, il a dit, il faut que maintenant, j'entre dans la vie religieuse, ce sera le seul moyen pour moi de pouvoir les aider après encore plus. Parce qu'il était trop pris, par tous ces jeunes qui voyaient quelqu'un qui s'intéressait à eux, qui paraissait intelligent, et avoir beaucoup de cœur. Elle recevait des coups de téléphone toute la journée. Des SOS. Toute la journée. C'était plus vivant. C'est vrai. Vous recevez 20 coups de téléphone le 20e, vous savez. Vous avez envie de dire, hein. J'en ai déjà reçu 19. Le 20e, il y en a pour reçu 19. Alors, rappelons-nous toujours l'analyse de la philosophie du vivant. Les niveaux de l'amour dans l'homme, l'instinct, les deux instincts, l'instinct sexuel, l'instinct par rapport à la nourriture, les passions, et ont les 10 visages de l'amour, ce qui est très important, puisqu'il y a 11 passions, il y a donc 10 visages de l'amour, les 10 masques de l'amour. Désir, qui se donne dans l'espérance, non, qui se donne dans la fuite avec le mal. Alors, 10 visages de l'amour, 10 masques de l'amour. Comme il est dit prédicament. C'est plus facile. Et puis, il y a l'aspect imaginaire, l'amour romantique, qui s'allie à n'importe quelle forme d'amour. Qui nous donne l'impression d'un abîme. Et puis il y a l'amour spirituel. Et l'amour spirituel se porte sur une personne. Et je ne regarde pas là le point de vue chrétien qui serait l'agapé. Et l'agapé est lié à toutes ces formes d'amour. C'est ça qui est extraordinaire. L'amour divin est lié à toutes ces formes d'amour. Parce que l'instinct sexuel est bon. C'est Dieu qui l'a voulu. Il relève de la sagesse de Dieu. L'instinct du boire et du manger est bon. Les passions sont bonnes. L'imagination est bonne. C'est bon dans la mesure où c'est finalisé vers la fin. Donc, vers l'amour d'amitié. L'amour d'amitié finalise toutes ces formes d'amour. Et par le 20e, les contient. Dans l'amour d'amitié, il y a toutes ces formes d'amour, toutes ces modalités d'amour. C'est pas extérieur à l'amour d'amitié. C'est pas extrinsèque à l'amour d'amitié. L'amour d'amitié demande de les sublimer. C'est-à-dire demande de les affiner, de les purifier et de leur donner une fin humaine. Vous voyez, parce que vous faites le parallélisme avec cette grande phrase d'Aristote, tout ce qui est commun de l'homme et de l'animal n'est pas proprement humain. C'est une phrase terrible, très forte, et elle est vraie. Tout ce qui n'est pas propre, tout ce qui est commun entre l'animal et l'homme n'est pas propre. Alors qu'est-ce qui est qui n'est pas commun avec l'animal? Toutes les passions sont communes. Il y a l'imagination, je crois. Et puis il y a l'amour d'amitié. Tout le reste est commun. Et c'est très juste cette parole d'Aristote. On n'ose pas le dire, entre nous on peut le dire. Je ne le dirai pas brutalement. Un milieu sorbonnard. Mais c'est la vérité. Alors, il faut comprendre que toutes ces formes d'amour, toutes ces modèles, qualité d'amour demande d'être assumées par l'amour d'amitié et peuvent être assumées dans l'amour d'amitié, affinées, transformées. Mais, évidemment, ça réclame une très grande assaise.
Me fait sortir de moi pour atteindre
permet de rejoindre l'autre et de rejoindre l'autre tel qu'il est, en lui-même, dans sa propre existence, dans son caractère original. Je l'aime tel qu'il est. Alors là, je saisis bien ce dépassement, puisque je saisis l'ami comme mon bien, qui est autre que moi. Et je ne le saisis pas, et je ne l'aime pas, dans la mesure où je connais, dans la mesure où il me convient. Je l'aime tel qu'il est, parce que c'est telle personne, c'est cet homme existant, cet homme concret, cette personne concrète que j'aime et qui m'attire. Donc soulignons tout de suite, dès le point de départ, ce caractère extatique de l'amour qui me fait sortir de moi et aimer l'autre. Ceci, c'est très important dans un climat phénoménologique comme le nôtre, où on ramène toujours l'amour au vécu de l'amour. En regardant que le vécu de l'amour, je demeure dans l'intentionnalité. En regardant l'ami, je saisis quelque chose de plus. Je vois que l'amour s'achève à une personne concrète, existante, qui a sa manière d'être, sa manière d'exister, qui existe. Peut-être donc une fin, qui n'est pas seulement mon bien, mais qui peut être aussi ma fin. Et donc qui peut mobiliser toutes mes forces. Ça, c'est important à souligner, voir la différence entre l'intentionnalité du vécu d'amour et l'amour lui-même. Et l'amour lui-même est tout entier relatif au bien. Qu'est-ce que c'est que le bien? C'est ce que tous désirent. Donc, amour et bien sont corrélatifs. Et ne peuvent pas s'isoler. C'est entelekeia et energeia. Pour parler un langage précis grec. Entelekeia, c'est l'amour. Et energeia, c'est la bonté. C'est ce qui actue mon amour. C'est la bonté qui actue mon amour. Et qui l'attire. Et qui lui donne tout son caractère propre. Et je vois que cet amour que j'ai pour une personne, l'ami, ne peut s'exercer dans toute sa force que si je sais que l'autre m'aime. C'est-à-dire que l'amour a besoin d'une totale confiance. Je ne peux pas aimer vraiment s'il n'y a pas une totale confiance. C'est très important. Ce n'est pas parce que je sais que l'autre m'aime que cet amour sera modifié dans son caractère spécifique, mais il sera modifié dans son exercice propre, parce qu'il aura une sorte de liberté intérieure qu'il n'aurait pas autrement. Mais quand on aime un ennemi, humainement parlant, facile. Et on voit que l'amour ne peut pas se réaliser pleinement. Quand on aime un ami, c'est là que ce serait intéressant de voir la différence entre les deux. Quand on aime un ami, l'amour peut être parfaitement lui-même et s'exercer en toute liberté. Parce qu'il a justement ce poids particulier détermination, son caractère propre. Le corps est essentiel. Il est assumé essentiellement. Mais il n'est pas ce qui détermine. Mais c'est capital de comprendre ça. Parce que si on ne comprend pas ça, on va bloquer. Et on dira que tout amour d'amitié implique nécessairement le don des corps. Alors que si je comprends au point de vue métaphysique, et c'est là où c'est nécessaire d'avoir une métaphysique de la personne, parce qu'au point de vue psychologique, vous ne pouvez pas répondre. Il n'y a pas de réponse psychologique. Alors on ne sera pas sur le moral. Alors il faut essayer au contraire de découvrir qu'au plan philosophique, il y a une réponse. Quand on a compris que la personne humaine est complexe, c'est évident. Rien de plus complexe. Je suis mon corps. Mon corps n'est pas mon avoir. Je suis mon corps. Mon existence est dans mon corps. Mais la source de mon existence n'est pas mon corps. Et la source de ma montée n'est pas mon corps. La source de ma montée, c'est mon âme spirituelle, capable d'atteindre un bien spirituel. Et pas seulement un bien sensible. Et pas seulement le bien qui éveille mes passions. Je suis capable d'aller beaucoup plus loin et de découvrir quelque chose de beaucoup plus profond. Donc, c'est la personne humaine que j'aime. Par le fait même, l'amour d'amitié est dans sa structure propre, dans son caractère spécifique propre. C'est un amour spirituel qui unit deux êtres spirituels. C'est-à-dire deux êtres qui savent ce que c'est qu'une personne humaine. Et qui l'aiment. Et qui se donnent. Le don est donc premièrement un don du côté de l'intelligence et du côté d'amour. Du côté de l'intelligence, il n'y a pas de problème. On est tous d'accord. C'est nécessaire qu'il y ait une présence pour que justement le réalisme soit vrai. Mais on sait qu'au plan intellectuel, de la mise en commun de ce que représente notre vie intellectuelle, la recherche de la vérité, le don des corps est extrinsèque. Tandis qu'au plan de l'amour, c'est là la difficulté. C'est qu'au plan d'amour, j'aime avec tout ce que je suis. Et donc, j'aime dans mon individualité propre. Mon individualité, c'est moi. C'est ma sensibilité, c'est mes passions. C'est mon imagination. Et quand j'aime, même spirituellement, l'imagination est éveillée, les passions sont éveillées, et les instincts sont éveillés. Pas nécessairement immédiatement. Et tout le contexte dans lequel de fait se trouve notre corps avec ses instincts propres, et dans un état d'amour. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc, de regard vers l'autre. Puisque l'amour implique ce regard vers l'autre. Cet état extatique. Alors, comprenons bien. Qu'est-ce qui est immédiatement en acte et en cause pour déterminer, c'est ce choix volontaire. j'aime, c'est ton corps que j'aime. Oui, si on disait ça, l'autre répondrait tout de suite. C'est très bien, mais mon corps, ce n'est pas moi. Au sens absolu. C'est bien moi, mais ce n'est pas moi dans ce cas de plus profond. Hein, si tu m'aimes, quant à mon corps, tu ne m'aimes pas vraiment. Tu m'aimes que d'une façon extérieure. Alors il pourra répondre, non, je t'aime vraiment, mais c'est ton corps qui en premier lieu m'ébranle. justement, si je disais à quelqu'un je t'aime beaucoup parce que tu es un excellent mécano et que moi je suis incapable de faire ces choses-là, non, mais dis-toi, je peux rien faire. Tu es un merveilleux cuisinier, c'est merveilleux, hein. On pourra cuisiner ensemble. Mais amour utilitaire, on ne peut pas aimer quelqu'un indéfiniment pour ça. Une journée, mais pas plus. Une semaine, mais pas plus. Pas plus. Vous voyez, c'est utilitaire, c'est mesuré dans le temps. Tandis dans le véritable amour d'amitié qui porte sur la personne, il y a quelque chose d'infini, puisqu'il y a quelque chose de substantiel. Vous voyez, alors, une fois qu'on a compris ça, on peut comparer l'amour d'amitié dans la famille, dans le foyer. Un amour d'amitié qui a son caractère propre, très particulier, puisque au plan humain, il faut bien le maintenir, surtout aujourd'hui, au plan humain, l'amour d'amitié de l'homme et de la femme a un fondement naturel, et la famille a un fondement naturel, même si on ne le saisit plus. C'est pas parce qu'on ne le saisit plus que c'est pas vrai. Même si les quantités de personnes aujourd'hui ne comprennent plus ça du tout. Ils sont platoniciens, sont néoplatoniciens. Il y a eu des philosophies, on les connaît, qui ont affirmé justement que le mariage n'est que conventionnel. Tous les sophistes ont dit ça. Et de montrer que dans le mariage, il y a quelque chose qui est naturel. Il y a un fondement naturel de l'homme et de la femme. Indépendamment de Dieu, et qu'il y a un amour de complémentarité, et que cet amour de complémentarité doit être d'abord un amour d'amitié spirituelle. Ce n'est pas parce qu'un jeune homme aime le corps d'une jeune fille passionnément qui est un motif suffisant pour. J'ai encore dit l'autre jour, concrètement à quelqu'un, il m'a demandé, c'est pas suffisant. Moi je n'oserais pas bénir un mariage, ça. Alors ça c'est extrinsèque. Mais si, c'est pas authentique, c'est pas humain. Alors il faut être attentif, hein. Faites attention, mesurez, il faut connaître beaucoup avant de dire ça. Hein. Vraiment. Curé, c'est très différent. Parce que c'est la charge du curé, c'est de bénir les mariages. Vous ne va pas faire une enquête. Écoutez, je ne vois pas encore si vous aimez vraiment d'un amour spirituel. Alors on va retarder un peu le mariage. Vous voyez, et tout le monde dira, c'est le curé qui l'a retardé parce qu'il ne sait pas s'il y a un véritable. Je dis, non, c'est complètement idiot. C'est pas le curé qui se marie. Mais il bénit le mariage. Il est témoin de Dieu. Il est témoin de Dieu. Témoin du Christ. Alors, dans l'amour de l'époux et de l'épouse, il faut qu'il y ait d'abord ce véritable amour spirituel. Et je vous ai dit, c'est à cause de ça que l'Église, je dis ça entre parenthèses, mais c'est intéressant, que l'Église insiste avec telle netteté de ne pas y avoir de rapport sexuel avant le mariage pour éduquer parfaitement cet amour spirituel. Et ça, c'est l'éducation maternelle de l'Église. Et en disant ça, elle retrouve un fondement naturel qui est très fort. Il faut d'abord s'aimer spirituellement. Et c'est cet amour spirituel assumer l'amour passionnel et l'amour instinctif. Il doit être assumé par cet amour spirituel. Alors, dans le mariage, le don des corps est pour que l'amour de l'époux et de l'épouse connaisse force de vie. D'où le grand problème de la fécondité. Qui est le fruit de leur amour? C'est là où je comprends comment il y a le tour des corps. Alors, le problème très subtil, quand on est en face de ceux qui plaident l'homosexualité, il y en aura de plus en plus. Et vous aurez des raisonnements philosophiques qui pourront paraître très forts. Je crois qu'ils sont tous fallacieux. Mais il faut, avant de dire, il faut bien saisir où est la confusion. Et c'est quelquefois très subtil. J'ai connu des personnes qui, du point de vue philosophique, voulaient à tout prix, sans du tout parler du reste. Philosophiquement, c'est toujours intéressant. Parce que ça oblige d'aller plus loin, de creuser davantage. Il ne faut jamais assommer ces gens-là en disant non, c'est contraire à la morale, donc taisez-vous. Pas du tout. Et il y a un point de vue esthétique qui est très fort. Et ça, je crois qu'il faut bien essayer de comprendre. Il peut y avoir ce point de vue-là. En disant, après tout, le don des corps peut très bien être uniquement finalisé par le point de vue sensible. Parce que l'amour humain implique la passion. Parce que l'amour humain implique d'assumer le corps. On aime avec toute sa personne. Toute sa personne qui est engagée dans un amour d'amitié. Et il y a une connaissance, non seulement de l'âme, mais une connaissance du corps, qu'on affirme comme nécessaire, essentielle, à un amour d'amitié. Parfait. Mais comme c'est subtil, la connaissance implique le point de vue sensible. Autrement, c'est plus une connaissance humaine. Elle est abstraite. Pour que votre amour soit tout à fait concret, et donc qui reste l'amour, et qui ne s'idéalise pas, et qui ne se romantise pas par le point de vue imaginaire, il faut qu'il garde son caractère concret. On est tout à fait d'accord qu'il doit garder son caractère concret. On est tout à fait d'accord qu'il faut, du point de vue de la présence, et d'une présence vécue mutuellement, d'une présence qui implique nécessairement un éveil passionnel. Possible qu'il n'y ait pas d'éveil passionnel sans qu'il y ait une présence. Au sens propre du mot passionnel, la passion en soi n'est pas mauvaise. Mais elle demande d'être lucide et d'être transformée du dedans par la prudence pour ne pas devenir une barrière qui empêche à l'amour spirituel, d'être extatique, se replie sur soi, un égocentrisme. Alors, je crois que c'est cela qu'il faut essayer de comprendre, comment l'aspect esthétique, au très grand sens du mot, l'aspect esthétique ne légitime pas, ne peut pas légitimer ce point de vue du don des corps. Et c'est ça qui me semble le point le plus délicat à bien préciser. Dans tout ce que j'ai pu voir de cas, et de cas très grands, vous voyez ce que je dis, il ne faut pas dire tout de suite, oh, c'est effrayant, c'est uniquement la jouissance, pas du tout. des homosexualités qui veulent la défendre et qui veulent que ce soit accepté et accepté par l'Église. Accepté d'abord au point de vue humain. Alors, c'est là où je crois qu'il faut bien comprendre la différence entre le beau et le bon. La bonté, c'est toujours la finalité. La beauté, ce n'est pas la finalité. C'est à l'intérieur d'un certain amour, une immanence dans la connaissance. Vous voyez, la connaissance de l'autre qui devient quelque chose de primordial au point de vue esthétique, à l'intérieur d'un amour. À l'intérieur d'une confiance mutuelle. Et cette connaissance de l'autre risque alors de devenir rivale du véritable amour. Parce que quand cette curiosité et cette connaissance de l'autre n'existera plus, à ce moment-là, on voudra changer. Ce qui montre bien qu'il n'y a plus la fidélité de l'amour. Parce que on aime l'autre plus dans sa sensibilité que dans ce qu'il est. Et c'est, je crois, le danger de ce mode esthétique qui peut exister dans l'amour d'amitié, dans l'homosexualité, qui est très fort. Chez Platon, c'est très net, très fort. Et c'est très net. Alors qu'il prend une forme, voyez, une forme particulière. Regarder l'autre comme il se regarde, voir l'aimer comme il s'aime, voyez, en tendant une sorte d'immanence de l'aspect esthétique. Et il n'y a plus ce dépassement, ce don que l'amour implique quand on aime l'autre pour lui, et qu'alors qu'on ne se regarde plus. Je crois que c'est cet aspect esthétique qui montre comment un véritable amour spirituel demande ce dépassement et ne pas s'arrêter à l'homme en comprenant que le don du corps, s'il permet un certain rayonnement de l'amour, s'il permet une certaine manifestation de l'amour, permet à